Olá, muito bom dia a todos, de novo para mais uma emissão política sobre a campanha eleitoral para as regionais e as departamentais francesas, primeira volta dia 20, segunda volta dia 27, e hoje tenho o prazer de ter comigo aqui em estúdio Christian Favier, que é comunista. Vous êtes déjà président du Conseil général du Val-de-Marne depuis 20 ans. Et vous avez été aussi sénateur. Je dois vous appeler sénateur. Comment je dois vous appeler?
Non, vous pouvez m'appeler Christian Favier, parce que ici les gens m'appellent certains des fois même par mon prénom. Mais sinon, non, je suis maintenant, j'ai un seul mandat, donc celui de président du Conseil départemental du Val-de-Marne. Et donc voilà.
Mais en France, normalement, on appelle par le poste le plus important qu'on a occupé.
Hein. Oui,
attends, je vais
oui,
vous appeler Christian Favier.
Oui, oui, voilà, très bien.
Et vous êtes très connu, bien sûr, depuis 20 ans que vous faites la politique dans la région. Vous êtes très connu aussi de nos auditeurs, de la communauté portugaise. Vous êtes présent à chaque fois, je vous vois, dans tous les grands événements et petits événements portugais. Et pourquoi? Ben, vous êtes vraiment ami des Portugais.
Oui, alors, bah, d'abord parce que j'ai commencé mon engagement dans une ville, Champigny-sur-Marne, qui est, on peut dire, aussi un peu le berceau de
ouais.
l'immigration portugaise en région parisienne. Et donc, très jeune, j'ai eu beaucoup de liens, effectivement, avec des amis portugais qui habitaient la même ville. Et donc, j'ai toujours eu ce souci, cet attachement aussi à travailler, à faire en sorte que cette intégration, qui a d'ailleurs été très très réussie, enfin je trouve, puisse se développer sur le Val-de-Marne. Et moi, une grande reconnaissance, de toute façon, pour le peuple portugais, parce que je sais que ce département bouge beaucoup, se construit, se développe, et pour beaucoup, c'est aussi souvent des travailleurs portugais qui ont contribué aussi à ce développement, et des entreprises également.
Et comment vous voyez le trajet précisément de ces Portugais qui ont commencé dans un bidonville vraiment terrible?
Absolument.
Et qui, quelques années après, sont devenus, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils sont sortis, ils se sentent
oui, bien sortis. C'est un parcours assez remarquable, parce qu'effectivement, les conditions de départ étaient catastrophiques, faut bien le dire. Moi, j'habitais pas très loin, d'ailleurs, du bidonville de Champigny, donc, et c'était vraiment des conditions terribles de difficultés, sur le plan humain. Et il y a eu des efforts qui ont été faits d'abord par la communauté portugaise elle-même, et aussi parfois aussi accompagnés par les municipalités. Ça a été le cas d'ailleurs à Champigny. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la communauté portugaise a souhaité rendre hommage à l'ancien maire qui s'appelait Louis Talamoni à l'époque, avec un monument.
Et j'étais d'ailleurs un grand monument.
Il y a quelques jours, on fêtait le 5e anniversaire de ce monument. J'étais évidemment présent. Voilà, et donc moi je salue vraiment les efforts qui ont été accomplis par les travailleurs portugais qui ont aujourd'hui, effectivement, pour beaucoup, ont parfaitement très très bien réussi et ont construit aussi une économie. Beaucoup aussi se sont engagés dans la vie économique de ce département et même au-delà, ou la vie sportive, ou la vie culturelle. Voilà, donc
c'est une communauté très active.
Très active.
Et elle s'est radicale. Elle vit carrément dans la même région. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Portugais à Champigny et dans toute cette région.
Oui, puis je pense qu'effectivement, il y a un véritable apport culturel et on sent un attachement aussi à cette région. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi des travailleurs qui sont repartis pour certains au Portugal, et beaucoup sont aussi restés, construit leur vie.
Il y en a beaucoup de restaurants portugais, vous pouvez manger du churrasco,
absolument.
Du churrasco, comme vous voulez presque, à Champigny.
Oui, bacalao.
Oui, bacalao. Christian Favier, on passe à la politique maintenant, parce qu'on est là à cause de ça. Il y a dans votre département maintenant un vrai duel traditionnel gauche-droite. Est-ce que c'est vraiment un vrai duel comme à l'ancienne?
C'est un département, le Val-de-Marne, qui a toujours été très partagé, effectivement, entre la gauche et la droite. Et même si la gauche est à la direction du département depuis de nombreuses années, depuis 1976, donc c'est une longue, très longue période, pour autant, à chaque fois, ces élections départementales ont toujours été très, très serrées. Et donc, on le retrouve encore cette fois-ci, c'est-à-dire, effectivement, avec une ambition assez forte de la droite, parce que la droite droite a gagné quelques élections municipales. Et donc,
notamment la dernière, pour les municipales.
Absolument. Et donc, évidemment, elle pense être aujourd'hui en mesure d'inverser donc la situation au niveau du département. Mais par ailleurs, la gauche a beaucoup travaillé. C'est parce que si les Val-de-Marnais ont fait confiance depuis 1976 à des majorités de gauche, y compris avec un président communiste, c'est parce que je pense qu'en retour, les Val-de-Marnais ont pu mesurer le travail qui a été fait, la défense des populations, notamment sur le plan social, l'attention portée aussi aux gens qui rencontrent le plus de difficultés, avec beaucoup de dispositions qui ont été prises pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc ça, c'est vraiment... et nous, ce que nous souhaitons, c'est justement un département où il fait bon vivre, un département, je dirais, du vivre ensemble. C'est cela que nous portons et dans la période à venir, nous allons continuer à porter des propositions. Par exemple, avec la crise sanitaire, on a pu remarquer que beaucoup de gens ne se soignaient pas pour des raisons financières. Et ça, c'est un vrai drame. Et donc, je propose que dès l'an prochain, nous mettions en place dans le Val-de-Marne une mutuelle départementale à un tarif accessible à tous, c'est-à-dire à partir de 30 euros par mois. Donc un tarif...
Ça, c'est une proposition nouvelle pour
le prochain mandat. C'est une proposition nouvelle, voilà, c'est pour le prochain mandat.
Et pour la crise sanitaire, ce qui vient d'arriver depuis plus d'un an, est-ce que vous avez eu dans le département des conséquences négatives? Bien sûr, il y en a eu partout en France, mais est-ce qu'il y a eu la solidarité nécessaire de la région et du gouvernement?
Alors, on a eu au départ quand même beaucoup de difficultés dans la relation avec le gouvernement. Et ça, il faut le dire, parce que tout le monde y assistait. Il y a eu l'incapacité du gouvernement à fournir les masques, par exemple, quand on en a eu besoin. Il a fallu que ce soit les départements, les communes, la région également, qui achètent directement des masques et les fournissent à la population. C'est ce que nous avons fait.
Et il y avait des masques suffisamment produits dans la région ou vous les avez achetés où?
Alors, on a acheté en différents endroits. On avait quand même une liste de fournisseurs. On a essayé de regarder si on pouvait avoir d'abord des fournisseurs français, mais qui n'étaient pas à l'époque en capacité de répondre à l'ampleur de la demande. Et donc, il y a eu ensuite, effectivement, d'autres masques à l'étranger. Et on en a nous-mêmes fait fabriquer. Donc, et on a pu fournir des masques à tous les habitants du Val-de-Marne. Ça a été très important. Et surtout, plusieurs fois, des masques en tissu également à tous les collégiens. On a fait 3 fois des distributions pour les collégiens. L'aide de l'État, elle est venue un peu après quand il y a une prise en charge à 50% du financement de ces masques par l'État. Mais au départ,
c'est pas seulement les masques, il y a aussi les tests.
Alors, il y a eu les tests, il y a eu aussi les vaccins, et puis il a fallu aussi organiser la solidarité, l'aide alimentaire, parce que face à ces difficultés, les gens se sont appauvris, de grandes difficultés, et donc là, le département a fourni de l'aide alimentaire aux associations qui distribuaient donc dans le département, des associations dans toutes les communes, enfin, et avec des associations extrêmement diverses. C'est comme ça qu'effectivement on a essayé d'organiser la solidarité dans cette période.
Et du point de vue politique, comment ça se passe votre campagne? Est-ce que vous êtes confiant d'abord à passer au deuxième tour?
Alors moi, je suis confiant parce que quand le dialogue que j'ai avec les habitants montre que un certain nombre d'actions faites par le département sont bien identifiées et jugées comme très utiles. J'aurai 1 ou 2 exemples. Les ordinateurs portables que nous fournissons à tous les élèves qui rentrent en 6e, et ça c'est la 10e année que nous le faisons, ce qui fait que par exemple dans la crise sanitaire, les élèves ont pu rester en contact, en lien avec leur établissement et avec leurs professeurs, parce que tous les élèves du collège, de la 6e à la 3e, étaient équipés par des ordinateurs portables fournis gratuitement.
Payés
entièrement par le département. Donc ça, c'est quelque chose auquel les Val-de-Marnais ont été très très sensibles. Je prendrai d'autres exemples. On est le département en France aujourd'hui qui avons le plus de crèches départementales. En général, les crèches, elles ne sont pas départementales, elles sont en général souvent communales ou associatives. Dans le Val-de-Marne, c'est une particularité. On a maintenant 77 crèches. On a créé et on a lancé un plan de création de 500 places supplémentaires. Et ça, c'est très important pour l'égalité homme-femme, parce que plus on répond de bonne manière donc au problème de mode de garde pour les enfants, eh bien plus ça facilite effectivement la possibilité aussi pour les femmes, bien sûr, souvent, de pouvoir retrouver leur activité professionnelle. Donc ça, c'est une action aussi marquante, et je crois que les gens font la différence. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, il y a zéro crèche départementale. Nous, on en est à 77 crèches, et on en aura plus de 80 très rapidement.
Pour un éventuel et probable deuxième tour, vous comptez sur les autres partis de gauche et les écologistes pour vous appuyer?
Alors, d'abord, dans mon propre canton, l'union est totale, y compris avec les écologistes. C'est-à-dire que c'est une union de la gauche qui rassemble aussi bien le Parti Socialiste, la France Insoumise, l'Europe Écologie, le Parti Communiste. Donc, dès le premier tour, on est déjà rassemblés. Mais c'est pas vrai, effectivement, dans tous les cantons du Val-de-Marne.
Oui, vous parlez d'un canton.
Voilà. Et donc, dans d'autres cantons du Val-de-Marne, oui, il faudra le rassemblement, notamment avec les écologistes qui ont parfois des candidats au premier tour différents des candidats que je soutiens, qu'on appelle Val-de-Marne en commun. Il faudra ce rassemblement au second tour pour s'assurer, effectivement, de garder, donc, une majorité à gauche dans le Val-de-Marne.
Vos critiques principales à vos adversaires, non seulement aux adversaires dans ces élections, mais aussi au niveau du département, de la mairie, par exemple.
Les principales critiques, je dirais que la droite, contrairement à ce qu'elle souvent prétend, elle a un projet qui n'est pas très révélé, parce qu'elle dit qu'elle va maintenir tout ce qu'on fait, et en même temps, elle dit qu'il faut faire des économies, réduire le personnel, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un projet quand même qui va toucher au service public. Et nous, notre plus grande crainte, par exemple, c'est que la restauration scolaire, par exemple, aujourd'hui, elle est publique dans notre département, dans tous les collèges. Demain, nous, la crainte, c'est qu'elle soit confiée à des entreprises privées et qu'on n'ait pas forcément exactement la même qualité et surtout les mêmes tarifs aussi pratiqués pour les familles. Deuxième aspect, c'est sur la défense des départements eux-mêmes. Parce que les départements ont été menacés de disparition. Et on s'est beaucoup battu pour que le département, notamment dans les métropoles, pour que le département du Val-de-Marne continue. Or, la droite, sur ce terrain-là, ne s'est pas mobilisée et ne se mobilise pas. Et dernier aspect, actuellement, par exemple, c'est les départements qui financent en grande partie le RSA. On paye plus
les
de 50%.
Les questions sociales sont très importantes.
Très importantes et financièrement, c'est une dépense.
Parlez-moi du RSA.
Le RSA, c'est une dépense de plus de 160 millions d'euros pour le département par an sur le budget propre du département. Or, normalement, c'est une allocation universelle qui devrait être prise en charge par l'État, comme elle l'était d'ailleurs au début.
Et pourquoi elle n'est pas?
Elle n'est pas parce que l'État a transféré cette compétence au département, mais sans transférer les moyens. Ils ont transféré les moyens au moment, en 2004, avec le niveau de subvention des dépenses de 2004. Mais on est maintenant en 2021, et donc depuis, eh bien, cette dépense a évidemment forcément progressé, et elle est totalement prise en charge par le département. Et nous demandons justement à ce que l'État reprenne à sa charge le financement du RSA. Nous sommes par contre engagés à accompagner les allocataires dans leur recherche d'emploi, dans l'aide à la recherche de logement, l'accompagnement social et professionnel de ces allocataires.
On a parlé beaucoup des questions sociales. Une question concrète, plus pragmatique. Que pensez-vous du Grand Paris, de ce grand projet qui s'appelle Grand Paris? Est-ce qu'il va être bénéfique? Et qu'est-ce pour les populations?
Alors, les gens confondent souvent deux choses. Quand on parle du Grand Paris, il y a la question institutionnelle du Grand Paris et il y a la question du métro du Grand Paris Express. C'est deux sujets un petit peu distincts.
Mais le métro va amener aussi beaucoup obligé à changer de transport, de logement, etc. Voilà.
Alors, moi, je soutiens totalement le projet du Grand Paris Express et on s'est beaucoup battu dans ce département qui était très mal équipé en transport et notamment pour les déplacements de banlieue à banlieue. On s'est beaucoup battu et c'est la raison pour laquelle...
Des déplacements à l'horizontale.
Voilà, c'est ça. Et aussi de manière circulaire autour de Paris. Et on a obtenu effectivement notamment que la première ligne, puisqu'il y aura 4 lignes du Grand Paris Express, la première ligne qui va être réalisée, c'est celle qui traverse le Val-de-Marne, c'est celle qu'on appelle la ligne 15 Sud, et qui va de Pont-de-Sèvres dans les Hauts-de-Seine, qui traverse sous le Val-de-Marne, pour aller jusqu'en Seine-Saint-Denis, jusqu'à Noisy-le-Grand. Si on a obtenu que cette ligne démarre dans le Val-de-Marne, c'est parce qu'on a été les plus mobilisés, les plus engagés pour obtenir ce métro. Donc ça va.
Donc c'est un projet positif.
C'est un projet positif. Il y a une crainte malgré tout, c'est que évidemment l'arrivée de ce métro entraîne aussi une augmentation des prix du foncier, notamment près des gares.
Logement.
Et donc des difficultés peut-être plus grandes pour la population de pouvoir acquérir un logement parce que les prix...
Ça peut éloigner encore plus les populations de la métropole.
Absolument. Et donc, ça, c'est ce défi qu'il faut relever. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler à faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que ce métro profite à la population déjà existante aussi, parce que
il faut contenir les augmentations des prix.
Absolument. Et il y a des propositions qui sont portées pour le permettre. Il y a notamment ce qu'on appelle une nouvelle forme d'accession à la propriété, qu'on appelle le bail réel solidaire, où les gens ne payent que le logement, mais ne payent pas le foncier. On sépare le foncier.
Dans ce genre de questions, le département a un mot à dire et le conseil régional aussi, c'est pas seulement le département.
Bien sûr, la région a aussi évidemment un rôle très important à jouer, et c'est là où on aurait besoin peut-être une coopération plus étroite entre la région et les départements, et aussi pour la construction de réserver, qu'on puisse avoir des réserves foncières qui permettent. Et la région a un outil, un outil de portage foncier, le département aussi, qu'on travaille ensemble pour permettre justement aux populations qui ont besoin donc des transports de pouvoir continuer d'habiter à proximité de ce futur réseau.
Vu d'ici, de Valenton, de notre radio, la campagne me semble à moi-même un petit peu agressive. J'ai lu quelques attaques très agressives qui se passent dans la campagne. C'est votre impression aussi ou c'est juste la mienne?
Non, vous avez raison. Il y a notamment sur la fin de cette campagne. Alors, est-ce que c'est un signe de fébrilité de la part de nos adversaires qui pensaient que ça serait très facile de pouvoir aujourd'hui gagner cette majorité? Ils se rendent compte sur le terrain que c'est beaucoup plus compliqué parce que les Val-de-Marnais sont attachés aux politiques politiques publiques ont été menées ici dans ce département, à la qualité de vie que nous essayons de développer, le fait qu'il y ait 20 parcs départementaux, c'est des espaces de respiration, c'est des choses très importantes, les coulées vertes, enfin il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc du même coup, on est attaqué effectivement sur d'autres terrains, souvent sur des niveaux d'attaque personnelle qui sont injustifiables et inqualifiables. Moi, je n'attaque jamais mes adversaires sur le plan personnel. Or là, effectivement, malheureusement, on assiste parfois à des dérives un peu populistes, un peu dangereuses, je trouve, pour la démocratie.
On arrive à la fin de notre temps. Christian Favier, je ne sais pas si vous avez une autre proposition que vous voulez relever, proposition de campagne, encore. Sinon, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui peuvent voter, surtout les Portugais d'origine, les Français d'origine portugaise, et ceux qui ont la double nationalité. Qu'est-ce que vous le dites? Une raison pour qu'ils votent pour vous?
Je dirais tout simplement, on est, nous, pour un Val-de-Marne pour tous. On n'est pas pour un Val-de-Marne qui ne serait réservé qu'à une petite catégorie de la population, celle qui aurait uniquement le moyen d'y vivre. Nous souhaitons effectivement que tous ceux qui sont attachés à ce département, pour des tas de raisons familiales, puissent continuer d'y vivre. Donc il faut créer cette condition du vivre ensemble. C'est vraiment cet engagement-là qui est le nôtre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé nos candidats, on a appelé nos listes Val-de-Marne en commun, parce que c'est ensemble que nous allons construire.
En commun, c'est le nom de la liste. Donc vous appelez les Portugais à voter, les gens d'origine, les Portugais, à voter simplement à cause de l'abstention ou à voter pour vous?
D'abord, effectivement, il faut faire très attention. L'abstention est quelque chose toujours très dangereuse parce que ça fait perdre un peu de la crédibilité aux élections lorsqu'il y a trop peu de gens qui votent. Et je sais combien, je le disais, donc les ressortissants d'origine portugaise ont contribué à la construction de ce département. Ce département ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, il ne serait pas devenu ce qu'il est sans cet apport-là. Et donc, je pense qu'il faut faire en sorte que ça puisse continuer comme cela. Et c'est la raison pour laquelle, oui, j'appelle effectivement,
les
familles, effectivement, votent pour ces candidats de Valdemar Lancomas. C'est la meilleure garantie pour eux, effectivement, que cette politique-là pourra être poursuivie demain.
Merci beaucoup, Christian Favier, d'être venu à la radio.
Merci beaucoup à Radio Alpha.
C'est pas la première fois que vous venez, vous venez souvent. Vous êtes un ami de la radio. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Je rappelle que vous êtes président du conseil général du département de Val-de-Marne depuis 20 ans.
Voilà.
Merci beaucoup. Et bon dia à tous.